Deuxièmement, quand l'erreur est invincible, c'est-à-dire quand on ne peut pas trouver l'erreur. Et des fois, on ne peut pas trouver l'erreur. Alors là, ça c'est intéressant. Parce que quand l'erreur est invincible, on peut trouver l'erreur, ben, il suffit d'éclairer notre conscience. Et là où on est dans une pièce allumée par une bougie, ben, on allume les 2000 watts. Hein, et on voit que dans le coin d'une pièce, ben, il y avait toute la solution. Donc mettez de la lumière, de la lumière, de la lumière. Et on met de la lumière en priant, et en dialoguant, et en se faisant vérifier par les autres. Voilà. Ne prenez pas des décisions tout seul. Ça, c'est l'orgueil. Les grandes décisions, parlez-en à des gens de confiance qui, pour vous, ont de la sagesse. Ok. L'erreur est invincible. Ben voilà, hein. Si après m'être réellement informé, avoir dialogué, prié, je n'entrevois pas que je puisse me tromper, je suis tenu de quoi? Je suis tenu de suivre ma conscience. Donc si après avoir formé ma conscience, prié, étudié, dialogué, être informé, etc., je ne vois pas que je puisse me tromper, je suis tenu d'obéir à ma conscience. Voilà. Ça, c'est l'enseignement de l'Église. Autrement dit, une conscience, et c'est le mot technique, invinciblement erronée, oblige. Une conscience qui a vraiment cherché, qui n'a rien trouvé, est obligée de suivre ce qu'elle lui dit de faire. Alors, on va essayer de... Il faut vraiment être allé au bout de l'éclairage de sa conscience. Mais en deux mots, et Thomas d'Aquin va jusque-là, si en conscience, croire même à Dieu serait mauvais pour votre conscience, ben, il ne faut pas croire en Dieu. Alors, normalement, ça ne devrait pas arriver, parce que la conscience reflète les aspirations les plus profondes de notre cœur. Donc si en conscience je lis les aspirations les plus profondes de mon cœur, je vais désirer connaître la vérité parfaite, le bien parfait, une autre manière de nommer Dieu. Mais si, voilà, dans la situation dans laquelle je suis, etc. Voilà. C'est pourquoi on doit, dans les situations même extrêmes, ne pas juger des personnes qui, en raison de conditionnements sociaux forts, pose des actes extrêmement interdits, intrinsèquement mauvais. Vous voyez, par exemple, vous preniez une usine, vous voyez, dans la dernière Coupe du Monde de football, ça arrive à chaque fois, les ballons, c'était les ballons Adidas, je crois, non? Je dirais, on a attaqué la FIFA, parce que les ballons Adidas a été fait par des entreprises du sud-est asiatique, qui se servait de l'esclavage des enfants à travers les petites aiguilles pour les coutures délicates. Voilà. Mais c'est sûr que ces enfants-là, ils sont dans des situations qu'ils n'ont absolument pas choisies. Ou parfois même ceux qui sont les entrepreneurs les plus directs, les sous-traitants, ils sont dans des conditionnements économiques et sociaux. C'est la mort ou ça, vous voyez. Donc il faut être conscient des conditionnements psychologiques, sociologiques, dans lesquels sont des personnes, voire économiques, qui sont obligées de faire des situations, des choses qu'ils ne voudraient pas faire. Et de prendre en compte ce contexte pour, avoir un regard plus équilibré, un jugement plus juste. Une conscience invinciblement erronée oblige. Mais ça ne veut pas dire que notre conscience ne sera pas jugée un jour. Si ultimement il faut suivre sa conscience, notre conscience sera jugée. Tout ce que nous avons fait sera un jour mis en lumière. Tout, tout, tout. Tout ce qui a voulu être caché, il y aura un jour un spot de 10 000 watts d'amour qui regardera ça. Il y aura, tu vois, là, voilà, allez, On va faire un petit peu de purgatoire, hein? Allez, un petit peu de purgatoire. Voilà. Purgatoire, c'est quoi? C'est des flammes d'amour, le purgatoire. C'est-à-dire que notre vie est mise à la lumière de l'amour parfait. C'est ça, le purgatoire. Eh bien, on est très contents. Les gens qui sont en purgatoire sont très contents d'être en purgatoire. Parce qu'ils sont purifiés par l'imperfection de l'amour. Paraît-il que la seule chose qu'ils regrettent, c'est de ne pas avoir été saint sur la terre. Mais que vous qui êtes encore sur la terre, vous avez la liberté d'être encore des saints. Alors, ça commence maintenant. Maintenant. Alors, attention quand même à ne pas entretenir l'ambivalence. Donc, vraiment, l'erreur est invincible, sauf dans trois cas. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'erreur affectée. Bon, l'erreur affectée, c'est facile à comprendre. C'est quand le sujet entretient volontairement l'ignorance. C'est sûr qu'il ne peut pas trouver la solution parce qu'il entretient l'ignorance. Je ne veux pas connaître les conséquences de ma violence à l'égard de mes enfants. Voilà, allez. Un bon coup de bâton, etc. Voilà. Donc je ne veux pas savoir, je veux pas savoir, c'est comme ça. Mon éducation, c'est comme ça, mes enfants, c'est comme ça. Bah, sauf que ça va avoir des conséquences. Je ne veux pas. Donc on entretient l'ignorance. Et on peut être très fort pour entretenir l'ignorance. Ensuite, ça peut être la négligence. Là aussi, à nouveau, vous voyez, c'est dans le devoir de s'informer. Oui, oui, on a parlé du problème une fois entre deux arrêts de bus. Ouais, regardez, je vais raconter une histoire. C'est à Paris, une étudiante qui dit à ses copains, ça va pas. Ouais, les copains disent, ouais, ok. Ah, pas. Sauf que la personne monte dans sa chambre, se met à son bureau, prend une feuille de papier et dit « Si de mon bureau à la Seine, je rencontre personne qui me sourit, je me jette dans la Seine et je me suicide. » La personne est allée de son bureau à la Seine, n'a pas rencontré de personne qui lui a souri, elle s'est suicidée. Voilà. Donc parfois, l'amitié doit aller plus profondément. Quelqu'un va pas bien, vraiment pas bien, ben, ouais, très bien, alors, bien, allez, on va passer une soirée ensemble, etc. Oui. Le un sourire, elle demandait un sourire. Sourire. Vous savez, le ministère de Mère Teresa de Calcutta, c'est quoi? Elle a rien fait, cette femme. Simplement, elle a souri. Elle a dit, moi, ma mission, c'est de sourire. Le quatrième vœu des sœurs de Mère Teresa, c'est quoi? Le vœu du sourire. Et une fille qui est super, qui est pieuse, etc., mais qui au noviciat ne sourit pas, éjectée, dégagée. Allez passer quelques jours à Calcutta, à la maison mère des sœurs de la charité. Allez-y, vous allez voir, vous vivez dans le noviciat, vous allez à la messe, il y a les 400 petites sœurs indiennes, parce que c'est le noviciat indien. Elles sont toutes comme ça. Toujours en train de sourire. Ça. Et celle qui ne sourit pas, éjectée. Voilà, c'est le sourire qui sauve. Si vous ne savez pas quoi faire, vous êtes fatigué, vous êtes omnibulé, très bien, et vous voulez faire du bien, que vous faites, vous allez dans la rue, vous allez d'ici à la gare, vous faites l'aller-retour, et chaque personne que vous croisez vous dit « Bonjour ». Vous allez voir, votre journée, c'est un rayon de lumière. Moi, j'ai expérimenté, hein, les jours, j'ai une mauvaise tête. Allez, t'en dis, tu vas te promener une heure, et chaque personne que tu rencontres, dit bonjour. Mais gentiment, toi, gentiment, bonjour. Personne. Voilà. Ben voilà, c'est tout simple. Mais ça réveille, même entre vous, vous voyez, le matin, oui, dans le couloir. Le café, un peu de café. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de banane, quoi. Pourquoi il y a mis des oranges et des bananes? Des bananes, c'est pas des oranges. Franchement, on aurait pu avoir des bananes. En plus, c'est la solennité de l'annonciation. Pourquoi ils n'ont pas mis des bananes? Alors là, on se fait sa tête du mauvais jour et on s'enferme dans son problème. Non, un sourire. n'y a rien de plus beau qu'une personne qui sourit. Qu'est-ce que vous voulez de plus dans la vie que de vivre avec des gens qui sourient? Vous savez la différence entre l'enfer et le paradis. Hein? L'enfer et le paradis, c'est exactement la même pièce. C'est le même repas, sauf que en enfer, ils mangent avec des grandes cuillères comme ça, et ils essayent de manger, de donner la nourriture, et ils s'en foutent partout, c'est raille sa gueule. En enfer, au paradis, c'est le même repas, ils ont les mêmes grandes cuillères, sauf qu'ils se donnent à manger les uns aux autres. Oh, c'est mignon. Entre quoi? Notre cœur est tourné vers l'autre. Notre cœur est tourné vers l'autre, et donc sourire, voilà. Donc dites-vous bonjour le matin. Hein? Et s'il y en a qui fait la gueule, il dit « Ah, le sourire !» On fait le match du sourire, c'est toujours gagnant. Donc attention à entretenir sciemment l'ignorance, erreur affectée. Attention à une certaine négligence. Hein? On en a parlé entre deux bus. Attention à ce que l'erreur involontaire remonte à une cause volontaire. Erreur involontaire, mais la cause est volontaire. Vous buvez excessivement, vous savez que vous êtes sensible à l'alcool. Vous prenez même deux verres d'alcool qui respecteraient même le taux d'alcoolémie requis. Et puis, en revenant de votre soirée, vous tuez une vieille dame. Mais vous saviez que vous étiez trop sensible. Voilà. Même chose pour la drogue, pour autre chose. Voilà. Donc apprenez à bien vous connaître pour ajuster votre comportement à qui vous êtes, à vos fragilités. On a tous nos fragilités. Ce n'est pas grave d'avoir des fragilités. Par contre, si on ne connaît pas notre incohérence fondamentale et qu'on n'en parle pas, le problème c'est de ne pas en parler. On a tous nos péchés. On est tous pécheurs. On a tous nos fragilités humaines. Voilà. Le problème c'est quand ce n'est pas mis à la lumière, ça. Et qu'on ne vit pas ça de manière vulnérable devant les autres. Et qu'on veut jouer le calibre de l'homme parfait, ça ne marche pas.